Bonsoir. L'Assemblée nationale procède ce jeudi à l'élection des successeurs de Vital Kamerhe à la présidence de la Chambre basse du Parlement ainsi qu'au poste de rapporteur adjoint. Initialement, plusieurs députés au sein de la majorité au pouvoir avaient exprimé leur souhait de se présenter à la présidence. Cependant, leurs candidatures ont finalement été écartées au profit de Aimé Bogi, désigné comme candidat unique de l'Union sacrée de la nation. De même, l'opposition a vu des multiples candidatures se manifester pour le poste de rapporteur adjoint. Après examen, c'est finalement la candidature de Clotilde Moutita qui a été retenue pour représenter l'opposition à cette fonction. Quels pourraient être les enjeux de ces élections? Nous en parlons avec Michel Bissa, professeur à l'Université de Kinshasa. Il est secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. Professeur Michel Bissa, bonsoir.
Bonsoir madame la journaliste et bonsoir aux auditeurs de la radio Okapi.
Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Il est expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique, basé à Dakar au Sénégal. Frédéric Amani, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux co-débatteurs ainsi qu'aux auditeurs de Radio Okapi.
Et Deogracias Bouma, il est analyste indépendant et directeur exécutif de l'ONG Action pour la Paix et la Concorde ACP en sigle. Deogracias Bouma, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
On a un bruit bizarre, Deogracias Bouma, si vous avez allumé la radio, merci de l'éteindre ou vous éloigner de votre poste récepteur. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, vous nous suivez sur la 95.8. Et si vous êtes en Suisse, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi, et ce, en direct. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit, la Chambre basse du Parlement se réunit ce jeudi 13 novembre 2025 en séance plénière pour élire son nouveau président et le rapporteur adjoint. Cette élection intervient après la démission de Vital Kamerhe, marquant une nouvelle étape dans la récomposition du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Enoch Katumbi.
Selon le calendrier publié par le bureau de l'Assemblée, le processus électoral a débuté le 4 novembre par le dépôt des candidatures, avant l'examen et la validation des dossiers les 8, suivi de la campagne les 11 et les 12 novembre. La plénière élective a débuté dans la soirée de ce jeudi à Kinshasa. Pour le poste de président, la majorité parlementaire a porté son choix sur Aimé Bogi Sangara, ancien ministre du Budget, présenté comme candidat unique de l'Union sacrée. Certains analystes estiment que son élection est évidente compte tenu du poids de la majorité au sein de l'hémicycle. Au poste des rapporteurs adjoints réservé à l'opposition, la députée Clotilde Moutita d'Ensemble pour la République est aussi unique candidate à ces postes. Pour les analystes politiques, ce scrutin vise à combler les postes vacants et à stabiliser la direction de l'Assemblée nationale pour la session budgétaire en cours. La journée de ce jeudi s'annonce donc déterminante pour la configuration politique du Parlement congolais.
Merci Enoch Katumbi. Professeur Michel Bissa, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, c'est un laboratoire de recherche en sciences sociales. Le choix d'Aimé Bogi Sangara comme candidat unique à la présidence de l'Assemblée nationale, malgré l'existence de multiples prétendants au sein de la majorité présidentielle, comment cela peut-il être interprété? Merci d'ouvrir votre micro, professeur Michel Bissa.
Ah, ok, merci beaucoup, madame la journaliste. Je voudrais d'abord dire qu'il faut préciser une chose, il ne s'agit pas d'une élection, mais d'un plébiscite, parce que nous n'avons pas plus d'un candidat. Et en d'autres termes, à tous les deux postes, il s'agit de venir valider un choix des familles politiques, si pas des autorités morales de ces familles politiques. Alors, c'est vrai, vous l'aviez parlé, vous avez abordé la question de la session budgétaire. Ce budget de l'État, c'est une matière tellement sérieuse qu'on aurait souhaité dès le début que cette session ne soit pas perturbée par des questions politiques. Vous voyez que le bureau de l'Assemblée nationale a été déstabilisé dans un contexte où le pays fait face à la guerre, la faim a progressé dans les ménages, les antivaleurs se multiplient au niveau de l'État, le délabrement des infrastructures à cette période de la pluie. Tout cela, en tout cas, montrait qu'on n'avait pas intérêt à perturber les bureaux de l'Assemblée nationale face à ces exigences sociales. Alors, ce plébiscite aussi, nous pouvons l'analyser d'abord au niveau du profil des candidats eux-mêmes. Vous voyez, à la présidence, on a mis M. Bogi. Je ne vois pas trop de différence avec Vital Kamerhe, et d'autant plus qu'ils sont du même terroir politique et même socio-anthropologique. On peut dire que c'est la géopolitisation de l'État qui l'a emporté face au budget de l'année 2026. Mais également, cela montre aussi une sorte de privatisation des institutions de l'État. Souvenez-vous, madame, lorsqu'on a parlé de Mboji, dans le projet du budget 2026 qui sera adopté, sa fondation privée y est reprise autant de fois dans ce projet. Et donc, je pense que la question du profil de l'homme à placer à la tête de l'Assemblée nationale aurait peut-être été un profil de quelqu'un qui devrait rompre avec les anciennes habitudes, mais si nous sommes dans la continuité sur tous les plans. Deuxième élément, avoir un scrutin à candidat unique, c'est-à-dire un plébiscite, ce n'est pas une élection. Cela révèle l'hypermajorité de la coalition au pouvoir, l'Union sacrée, et qui semble l'emporter sur la faible compétition démocratique, y compris à l'interne. On aurait souhaité que l'Union sacrée laisse ses candidats à l'interne compétir entre eux et peut-être que les élus auraient pu choisir quelqu'un de meilleur, même s'il allait être de la même famille présidentielle, parce que c'est le règlement qui le dit. Cela confirme aussi la consolidation du pouvoir présidentiel sur les institutions. C'est vrai, le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais le bureau de l'Assemblée nationale est supposé être un contre-pouvoir. En ayant un candidat qui a été validé par l'autorité morale, il y a donc un risque de devenir le prolongement de l'exécutif. C'est vrai que depuis longtemps, nous avons regretté que l'Assemblée nationale ne joua pas suffisamment son rôle, n'a pas aidé l'institution président et la République à bien faire les choses. Il y a donc faible pluralisme interne au sein de l'Union sacrée. Mais aussi, cette Assemblée nationale est à plus de 90% Union sacrée. L'opposition avait à peine une vingtaine d'élus, et vous savez que vous venez d'aborder qu'au poste de rapporteur adjoint, il y aurait eu des candidats. Non, les candidatures qui s'étaient pointées, c'était des gens qui avaient déjà abandonné la famille politique et qui étaient en train de se présenter comme de non-inscrits. Je peux prendre l'honorable Irakan, notre sœur Christelle Vuanga de la FUNA, ils ne sont en réalité plus de l'ensemble. Et donc l'ensemble pour la République, et là nous pouvons saluer le fait que au moins la majorité au pouvoir a laissé que ce soit les candidats présentés par l'ensemble qui soient là. Et pour nous, ce plébiscite d'aujourd'hui, sur le plan symbolique, renvoie l'image d'un vote qui exprime plus une loyauté politique au lieu d'une délibération démocratique. Et cela a aussi un enjeu institutionnel sur la gouvernance, c'est-à-dire l'efficacité. Donc, du contrôle parlementaire qui est déjà affaibli depuis longtemps et qui risque de ne pas être amélioré. La production législative elle-même, vous savez que la qualité des débats dans cette assemblée a tellement failli au point que l'assemblée passe plus pour la loyauté institutionnelle à la famille politique Union Sacrée au lieu d'une loyauté institutionnelle à l'efficacité du contrôle parlementaire.
Merci, professeur.
Sur l'état socio-anthropologique.
Allez-y rapidement.
Oui, sur les plans socio-anthropologiques, je voulais dire que ici il y a aussi un problème de culture du consensus imposé qui commence à de plus en plus prendre position au sein de notre pays et qui risque de renforcer la personnalisation du pouvoir. Et je pense que ce sont des éléments à remettre un tout petit peu derrière pour qu'on ait une Assemblée nationale et un bureau qui puisse renforcer le contrôle effectif de l'exécutif, au lieu d'être une assemblée docile au pouvoir exécutif, et surtout qu'on ait un bureau qui va aider l'État à mettre fin aux 5 grands problèmes de l'ère, c'est-à-dire mettre fin à la guerre, mettre fin à la faim, mettre fin aux antivaleurs, mettre fin au délabrement des infrastructures, et mettre fin au détournement des deniers publics.
Merci,
et là,
professeur
je ne
Michel
pense pas
Bissa.
Que cette assemblée sera au rendez-vous.
Merci, professeur Michel Bissa. Frédéric Amani, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Vous êtes expert en questions de sécurité, défense et maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar, au Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix porté sur Aimé Bougie comme candidat unique de la majorité présidentielle à l'élection de ce jeudi, bon, au plébiscite comme le veut, comme le dit le professeur Michel Bissa.
Bien, je crois que c'est vrai, c'est le plébiscite dans la mesure où on parle d'une élection, c'est une compétition. Or, à ce que je sache, Madame Kelly, on ne fait pas une compétition avec soi, on fait une compétition avec d'autres acteurs. Dès lors qu'il n'y a pas d'autres candidats, eh bien, bon, théoriquement, on dira élection, mais c'est un plébiscite parce qu'il est le candidat unique et donc on va juste constater qu'il est installé comme président. Alors, son choix en tant que président peut s'analyser à plusieurs niveaux. Je ne voudrais pas entrer dans la cuisine interne de l'INC, mais selon certaines indiscrétions, depuis un temps, l'honorable Bougie n'était plus membre actif de l'INC, bien que, n'est-ce pas, il est présenté comme candidat de l'INC. Et vous vous rendrez compte que l'assemblée ou la plénière d'aujourd'hui était prévue commencer à 15h à 16h, mais c'est à peine que les travaux ou la séance vient de commencer parce que il y a des tractations qui devraient continuer et malheureusement, ce n'est pas en faveur du peuple congolais. Eh bien, et aussi son choix, c'est dans la mesure où on veut respecter, n'est-ce pas, ce que certains appelleraient l'équilibre géopolitique, mais d'autres appelleraient, n'est-ce pas, la représentativité, où on pense que chaque coin du pays, où, n'est-ce pas, la province de l'Est devrait être représentée où il y a, n'est-ce pas, la présidence, la primature et consorts qui sont occupés, chaque institution, par d'autres personnalités venant d'autres coins. Mais je crois que cette manière de faire, c'est vrai, je la respecte, mais je crois qu'on ne doit pas beaucoup plus s'atteler sur cette représentativité dans la mesure où on a besoin des compétences, on a besoin, n'est-ce pas, des gens qui doivent apporter un plus à l'édification de la démocratie et au progrès du développement ou au progrès du pays, je vais dire, et non seulement selon la représentativité. Mais un autre élément qu'il faut rappeler par rapport au choix de l'honorable Bongi, c'est que il y a eu d'autres candidats qui s'étaient présentés et quelques temps après, certains ont fait un rétropédalage et d'autres ont été invalidés, donc leurs candidatures n'ont pas été validées. Alors que, il vous souviendra, Madame Kelly, lors de l'élection de l'ancien bureau, je fais allusion ici à l'élection de l'honorable Caméré, ils étaient passés par les primaires. Puisque cela constituait déjà une jurisprudence, on aurait bien voulu que ce soit aussi le cas pour la désignation de l'honorable Bongi, mais qui malheureusement ça n'a pas été le cas, voyez-vous, et que cela risque à la longue, ce que je ne souhaite pas, à fragiliser ou à déranger la cohésion au sein de l'union sacrée, dans la mesure où
pour certains, on avait exigé. Je voulais dire, est-ce que ça ne renforce pas plutôt la cohésion au sein de l'Union sacrée, cette unicité de la candidature, hein, de la majorité pour le poste de président? Est-ce que ce n'est pas un signe des forces et de cohésion de l'Union sacrée?
Non, pas du tout, madame, parce que on le dit, on le dira jamais assez. On ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il est du coin ou parce qu'il est porté par un regroupement. On vote au-delà des considérations personnelles, la bonne moralité et consorts. On vote, n'est-ce pas, un discours, un programme, une vision, voyez-vous, et que, comme on l'a toujours dit, du choc d'idées jaillit la lumière. On aurait bien voulu assister à un débat au sein de l'Union sacrée des deux, trois candidats qui se présenteraient à ces postes-là, et qu'à l'issue de ces débats-là ou de ces primaires, on choisirait alors un candidat que l'Union sacrée, c'est-à-dire les députés, estiment capable de représenter et les intérêts du Parlement, mais aussi les intérêts du peuple, parce que les députés sont l'émanation du peuple, voyez-vous. Alors, pensez que cette unicité favorise la cohésion, au contraire, elle la dérange.
Et vous pensez que c'est une entrave? C'est une entrave au débat démocratique au sein de, du parti majoritaire?
Tout à fait, et c'est une entrave, et vous vous souviendrez qu'il y a d'autres coalitions, que ce soit pour les régimes passés, et on finit par aussi se dissoudre ou se diviser, autant plus dans la mesure où c'est l'autorité morale qui décidait sur, n'est-ce pas, les choix de tel ou tel candidat. Alors que dans une démocratie ou dans une coalition, dans un regroupement, il faut donner l'occasion à d'autres voix discordantes d'émerger. Et cela va favoriser, n'est-ce pas, la cohésion. Parce qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'unité sans dialogue. Oh, les dialogues passent par les contradictions, passent par les débats. Et moi, je pense qu'il est vrai qu'aujourd'hui, l'honorable Bongi est présenté comme le candidat unique de la majorité de l'Union sacrée, mais au sein de l'Union sacrée, il y a déjà de petites tensions ou des tensions latentes qui pour dire que bon, on aurait imposé ou on aurait influencé ces choix, alors que on a besoin d'une Union sacrée unie, passez-moi la redondance, on a besoin d'une Union sacrée unie pour que sa fragilité ou ne puisse pas impacter sur la bonne marche des institutions du pays afin que, n'est-ce pas, un élan de la stabilité puisse se mettre en place.
On vous garde encore dans cette émission, Frédéric Amani, de Gracias Bouma. Vous êtes analyste indépendant et directeur exécutif de l'ONG Action pour la paix, la Concorde. Et la Concorde, voilà, APC en sigle, candidature unique pour le poste de président de l'Assemblée nationale, candidature unique de la majorité présidentielle, signe des forces ou entrave au débat démocratique au sein de cette famille politique du chef de l'État. Merci d'ouvrir votre micro, Deo Gracias Bouma. de Gracias Bouma. Merci d'ouvrir votre micro. On ne vous suit pas. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. De Gracias Bouma, on n'a pas de retour. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, de Gracias Bouma? On a des soucis avec la ligne de Gracias Bouma. Est-ce que la réalisation peut le contacter en privé et lui demander d'ouvrir son micro pour qu'il puisse passer à l'antenne? On n'a pas de retour de sa part. Alors, la réalisation va essayer de l'appeler. On va prendre ses auditeurs qui sont en ligne, qui nous appellent et qui veulent réagir hein, à l'émission de ce soir. On va se rendre à Uvira, au sud de Kivu, pour écouter cet auditeur qui est déjà en ligne.
Aman Kassani Placide, depuis la ville d'Uvira, dans la province du sud Kivu. Ce qui se passe dans mon pays est contraire au principe de la représentation. Les députés qui sont l'émanation du vote du peuple qui les représentent ne se comportent pas réellement comme de véritables représentants du peuple. Devant ces enjeux et dans le respect du principe de la représentation, nous aurions vu nos députés chacun descendre dans sa circonscription électorale pour recueillir les avis de sa base par rapport au profil des personnes qui se sont portées candidats à ces élections. Nous sommes étonnés de constater que les députés se comportent comme si les mandats qu'ils ont leur appartiennent et se donnent même le luxe d'abuser de ses pouvoirs. Ils sont à l'écoute de leur hiérarchie que d'être à l'écoute de ce qui leur avait mandaté. Peut-on dire que ces élections nous concernent réellement?
Alors, professeur Michel Bissard, vous avez suivi cet auditeur d'Uvira qui nous a appelé. Comment vous réagissez très brièvement hein, à son point de vue?
Oui, je pense que M. Placide a raison et ce qu'il dit corrobore le sentiment global parce que le plébiscite est toujours symptomatique d'un système où la fidélité est valorisée plus que la compétence de l'action parlementaire et même l'éthique. Et d'ailleurs, pour la majorité de la population, ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée renforce le sentiment que la politique est un espace fermé, un espace réservé aux élites du pouvoir et donc pas un lieu de représentation des intérêts collectifs. Vous voyez donc, madame, que ce vote ici est un enjeu de résultats politiques et non pas de l'efficacité de l'action parlementaire. D'où nous pouvons nous poser la question, quel bureau de l'Assemblée nationale pour quelle république? Est-ce qu'il nous faut un organe docile ou une institution capable de défendre les intérêts de l'État? Si on entre dans cela, on peut bien comprendre que le choix de deuxième personnalité du pays, parce que le président de l'Assemblée nationale vient dans l'ordre de la préséance, juste après le chef de l'État, son choix aurait pu obéir à une compétition démocratique, à un débat démocratique, plutôt que à un plébiscite comme nous vivons. Merci beaucoup, madame.
Merci, professeur. La réalisation me signale que Deogracias Bouma est en ligne, joignable. Est-ce que vous nous suivez?
Je vous suis, madame Kelly. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, rebonsoir, monsieur Bouma. On parlait de cette candidature unique de la majorité présidentielle au poste de président de la Chambre basse du Parlement. Est-ce que vous pensez, est-ce que selon vous, c'est un signe de force, de cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation ou une entrave au débat démocratique au sein de la majorité présidentielle?
Bon, bien justement, je pense qu'il faut placer les choses dans leur contexte. Hein. Et quand nous parlons de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale de notre pays, il faut particulariser le contexte politique. Je pense qu'ici, nous avons un règlement politique, un défi des défis divers. Je crois que c'est le règlement politique au niveau national qui édicte la règle. Et bon, elle rentre dans les jeux démocratiques, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus une démocratie à la congolaise. On devrait se poser la première question de savoir le rôle de l'Assemblée nationale, donc le rôle des députés au niveau de notre pays, c'est la législation et que c'est le contrôle aussi de l'exécutif. Et c'est de plaider pour les aspirations et les besoins de la population à la base. Ce que nous observons, c'est comme si lors des enjeux politiques d'État, comme le cas du vote du nouveau président de l'Assemblée nationale, la population est...
On a perdu Deo Gracias Bouma. Je crois que il y a un problème des réseaux où il se trouve. Vous êtes très nombreux à nous écrire, à suivre cette émission. Donald Kalunga, vous nous écrivez depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Pour vous, vous dites ceci, il me semble que avec l'UDPS, le jeu démocratique n'existe plus en RDC concernant l'opposition. On peut supposer que l'Assemblée nationale ne comportera qu'un seul parti d'opposition, Ensemble pour la République, puisque les autres formations ont rejoint la majorité gouvernementale. Quant au remplacement de Vital Kamerhe, il aurait été préférable de laisser le champ libre à la compétition. Envisager des candidatures uniques signifierait, selon moi, la mort de la démocratie. Alors, Deo Gracias, vous êtes là?
Oui, je suis là, Madame Kelly. Je suis heureux de voir que ma ligne bouge trop.
Oui.
J'espère que vous me suivez correctement maintenant.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, donc je disais que nous sommes devant un cas de figure de règlement politique. Et dans ce jeu de règlement politique, nous observons à une attitude de politiciens qui se liguent autour de l'autorité morale pour répondre à son vœu et que les besoins de la population viennent par la suite. Et c'est tout le problème que nous observons comme acteurs de la société civile, analystes de notre État, parce que devant un enjeu de l'élection d'un président d'une si grande institution comme le législatif national, naturellement, on devait comprendre que veut le peuple, quelles sont ses attentes et quelles sont ses aspirations, qu'est-ce qui n'a pas été fait avec le président sortant et quel type de personne élire pour que toutes ces attentes soient finalement rencontrées. Mais au-delà de ça, nous observons à toutes les combines qui se font et se refont. De l'extérieur, on peut penser qu'il n'y a pas unicité au sein de la classe politique congolaise, mais la réalité nous a prouvé que chaque fois qu'il y a un grand enjeu, en tout cas, tout est relativement stable et que rien ne s'effondre. Donc, il n'y a pas la voix discordante qui est acceptée et que toute l'opposition est réduite au silence et ça fait que l'élection aura lieu, on comprend que Bouji va passer. Mais nous, comme acteurs de la société civile, tout ce qui importe, c'est que nous puissions voir finalement un nouveau président de cette Assemblée nationale et qui réponde effectivement aux besoins du contrôle de l'exécutif et qui légifère et qui pousse surtout à l'achèvement de l'ensemble des réformes qui souffrent et qui sont laissés à l'intérieur depuis des législatures et que les députés sans presse sur d'autres questions que sur les questions prioritaires et qui devaient rencontrer l'assentiment de toute la population.
Alors, en parlant du contrôle parlementaire de Gracias Bouma, face à cette élection où les choix majeurs ont été faits en amont par la majorité et l'opposition, quels pourraient être les degrés d'autonomie et d'influence des députés nationaux dans les processus décisionnels de l'Assemblée nationale?
C'est là tout le piège et le risque, parce que dès lors que les députés nationaux paraissent comme s'ils répondaient au chef de l'exécutif, tout porte à se questionner sur le niveau d'indépendance des députés dans la légifération, bien évidemment les contrôles et la proposition des décisions de sanctions, le cas échéant. Et comment, par exemple, le même député ont les mains libres pour décider du parachèvement de certaines réformes qui souffrent, parce que c'est parmi les grandes questions, vous voyez, la réforme du secteur de sécurité qui n'est toujours pas achevée avec la loi sur la gestion de l'armée, et le PDRCS qui n'est pas toujours très très fonctionnel tel qu'on le voudrait voir, la loi sur la révision de la loi foncière qui ne vient pas accompagner les jalons du document de politique foncière nationale, dès lors que nous savons que plus de 60% des résultats des analyses nous font voir que les problèmes qui conduisent à la violence dans notre pays sont d'origine foncière. Donc voilà, il y a autant de problématiques sur lesquelles nous attendions que nos députés se penchent et qu'ils contrôlent et qu'ils accompagnent l'exécutif dans l'achèvement de ce genre de questions. Mais vous trouvez que même pour la mandature maintenant, elle est budgétaire, mais vous trouvez que nous avons déjà perdu plus d'un mois dans les combines politiques, et donc il ne reste plus que deux mois, si pas un mois et demi, alors que la question budgétaire, c'est une question fondamentale et qui devrait attirer beaucoup plus l'intérêt des députés que toute autre chose.
Merci. On va prendre ces deuxième auditeurs qui nous appellent de Kinshasa.
C'est Dr. Michael Bolingo Sebdesi à partir de la ville de Kinshasa. Le peuple congolais est en train de comprendre que plus de 60% des élites congolais ne travaillent qu'à leurs intérêts personnels. Nous sommes en guerre, chose qui n'a pas été une priorité pour ces députés nationaux. Quant à ces élections, nous avons remarqué que c'est un deal de l'Union sacrée qui n'a rien à voir avec les élections classiques. D'où nous invitons à ces députés qu'ils ne déstabilisent plus les institutions pour leurs intérêts, car je doute que l'actuel président choisi puisse réaliser leurs attentes vu les griefs portés qui n'est pas l'apanage seulement du président sortant, plutôt du gouvernement congolais. Notre souhait est que le comité qui sera nommé finisse ses mandats. Le peuple vous observe et son appréciation sera constatée en 2028.
Alors, Frédéric Amani, réaction, brève réaction.
Eh bien, je salue la réaction de M. Michael Bolingo, docteur de Kinshasa. Il est vrai que, c'est vrai, ça a toujours été un grand problème, que ce soit ici au Congo ou vraiment pour la plupart des cas en Afrique, où les hommes politiques, les représentants disent travailler pour le peuple et au nom du peuple, mais malheureusement, le peuple devient, n'est-ce pas, le dernier ressort, c'est-à-dire d'abord leurs intérêts et puis après c'est le peuple, alors qu'ils sont représentants du peuple et ils devraient travailler pour le peuple et au nom du peuple. Alors, moi je pense que cela devrait aussi interpeller les confessions religieuses et les associations ou les sociétés civiles, le mouvement des sociétés civiles, pour interpeller, n'est-ce pas, les élus ou les gouvernements lorsque, n'est-ce pas, il y a un couac ou lorsqu'il y a une complaisance dans les chefs, n'est-ce pas, des députés, où un ministre n'a pas bien travaillé, n'a pas bien, n'est-ce pas, rempli ses fonctions. Eh bien, il faudrait que les confessions religieuses, les mouvements de société civile interpellent les élus par rapport, n'est-ce pas, à ces manques des cibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé pour,
n'est-ce pas, les missions pour lesquelles ils ont été élus. Et pour terminer, je pense que aujourd'hui, il est vrai que nos politiques prennent beaucoup de temps dans ce qui ne concerne pas le peuple. Le pays fait face à une crise sécuritaire aiguë, et bon, il y a aussi le problème du chômage, alors que cette session budgétaire devrait se concentrer, n'est-ce pas, à adopter le budget pour l'année prochaine, mais aussi des lois qui aideraient le pays, n'est-ce pas, à avancer et ne plus retourner dans, dans d'autres problèmes qu'on a connus avant, où un régime passe, on semble faire table rase, et un autre arrive, on commence à zéro, alors qu'on devrait s'appuyer sur ce qui a marché, et aussi laisser ce qui n'a pas marché, et avancer. Mais on a tendance, n'est-ce pas, à continuer à tourner à rond, ou à faire table rase sur ce qui a été fait, et sur ce qui retarde même les actions, ou, n'est-ce pas, l'application des politiques publiques qui devraient aider, n'est-ce pas, le pays à se relever. Nous pensons que cette élection devrait davantage aider, n'est-ce pas, les élus à travailler pour répondre efficacement à la mission d'un parlement, c'est-à-dire voter des lois, mais surtout contrôler le gouvernement. Dans le contrôle, il y a trop de complaisance, et ceci me permet, pour terminer, je pense qu'aujourd'hui, l'élection de l'honorable Boji comme président de l'Assemblée nationale, ou l'installation du bureau définitif, devrait permettre à ce que le Parlement ne soit pas seulement, n'existe pas comme une chambre des représentants, mais plutôt comme une institution qui n'est pas vidée de toute sa subsistance de contrôle parlementaire et de légiférer des lois. À ce niveau-là, on aura un Parlement qui va faire un contrepoids de l'exécutif, non dans le mal, mais pour l'aider à concrétiser les promesses que le chef de l'État a eu à faire à la population et la vision que Madame la Première Ministre incarne du gouvernement pour le bien du peuple congolais et pour le bien de la RDC.
Alors, l'élection d'aujourd'hui concerne aussi le poste de rapporteur adjoint. La candidature de Clotilde Moutita pour le poste de rapporteur adjoint est la seule retenue pour l'opposition. Comment vous évaluez, Frédéric Amani, l'influence réelle que l'opposition pourra exercer à travers cette position au sein du bureau face à une majorité en laissée écrasante?
Bien, malheureusement, déjà, avec ce qu'on a vu, ou, bon, c'est vrai, dans un jeu démocratique, est-ce que, ceci me permet de dire, est-ce que l'honorable Mwando Simba était, entre guillemets, obligé d'aller voir le secrétaire permanent de l'Union Sacrée pour parler de la candidature de Mme Clotilde, que je salue et je souhaite bon vent? Mais je ne vois pas l'opposition faire contrepoids, n'est-ce pas, au sein du Parlement. Et cela risque, ce que je ne souhaite pas, cela risque de conduire à ce que le Parlement devienne un prolongement de l'exécutif ou une caisse de résonance, n'est-ce pas, de l'exécutif où on va tolérer l'intolérable et on va laisser passer même des députés qui n'auront pas accompli valablement leur mission. Pourquoi? Parce que dès lors que vous savez que vous avez, entre parenthèses, été repêché, il y a des candidatures qui ont été recalées parce que il est vrai que ces postes revenaient à l'opposition majoritaire qui est l'ensemble, mais je ne vois pas aujourd'hui l'ensemble comme parti d'opposition majoritaire au sein du Parlement faire contrepoids vis-à-vis de la majorité. Eh bien, je crois que il ne faut pas s'attendre à ces miracles-là. Malheureusement, et le jeu démocratique sera fragilisé. Pourtant, on ne le dit jamais assez, un opposant n'est pas un ennemi. C'est un adversaire politique qui réfléchit autrement. Merci. Et on a besoin des opposants qui réfléchissent autrement pour aider le pouvoir ou la majorité à bien calibrer leurs pas pour l'atteinte des objectifs assignés du Parlement ou atteindre, n'est-ce pas, la vision qui a été promise par le président de la République.
Merci.
Nous pensons
Frédéric
que Amani, les parlementaires écoutent, suivent et ils seront à l'écoute du peuple et non de leur base ou de leur autorité morale pour que le Parlement soit véritablement ces temples de démocratie, mais aussi cette chambre de représentants pour booster la démocratie.
Alors, président, plutôt professeur Michel Bissard, nous sommes presque en train de conclure l'émission. Une fois le bureau complété, quels sont selon vous les principaux défis institutionnels et législatifs qui attendent la nouvelle équipe dirigeante de l'Assemblée nationale?
Merci beaucoup, madame. D'abord, le premier défi, c'est que nous sommes aujourd'hui en mi-novembre et qu'il faut adopter le budget de l'État, mais aussi la reddition des comptes de l'exercice passé au plus tard le 15 décembre. Donc, dans un mois, il faut à la fois faire la reddition des comptes et adopter le budget 2028. Or, tout cela sera encore alourdi par une budgétisation parce qu'il faut payer les frais de sortie du bureau caméré et les frais d'entrée du bureau qui vient d'entrer. Vous imaginez combien tout cela coûte en termes de poids sur les coûts de vie des institutions. Mais il y a aussi un risque énorme qu'il faut voir. C'est que Aimé Bodji revient du ministère du gouvernement qui a préparé justement les budgets dont il va faire partie. Il se situe donc à la fois juge et parti parce qu'il va présider à un budget qu'il a lui-même contribué à préparer et dans lequel budget il y a une surreprésentation de structures privées, de fondations de députés, des ONG, ainsi de suite. Je pense que l'ensemble de tout cela montre que l'arrivée de Mbodji, en tout cas à mon niveau, c'est plus une marque de loyauté à une famille politique qui voulait justement condamner un vital panneur et qui s'est montré plus passif par rapport aux intérêts de sa famille politique. Mais les assemblées nationales, sous Mbodji, s'ils veulent être une véritable structure, ils doivent aider le pouvoir exécutif à mettre fin à ces 5 vices dont je parlais. Les priorités du Congo aujourd'hui,
il faut mettre fin
à la fin. À cette guerre, ainsi de suite pour l'imposer.
Merci, madame. Merci, professeur Michel Bissadeo. Gracias, Bouma. Il y a un auditeur qui pense que l'élection d'aujourd'hui vise plutôt à restaurer la légitimité et la stabilité du bureau, préparation aux grandes échéances parlementaire. Le nouveau président devra piloter les travaux législatifs dans un contexte de réformes attendues, notamment en matière électorale et de gouvernance. Qu'est-ce que vous en pensez, Deogracias Bouma?
Oui, je pense que l'auditeur n'a pas tort, mais au-delà de ses attentes, il faut penser à l'arrêt de la guerre qui n'a que trop duré. Nous avons 3 décennies d'instabilité. Les populations souffrent de leurs mouvements entre l'Est et l'Ouest et il est important que l'organe législatif appuie l'exécutif dans la recherche de mécanismes d'accélérer la fin de cette guerre, soit par la négociation ou alors imposer sa fin d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la priorité des priorités. La deuxième priorité, bien évidemment, c'est celle de penser à l'assouplissement des conditions de vie des populations à travers des réformes socio-économiques qui s'imposent. Regardez seulement les conséquences de la fluctuation du taux de change. Beaucoup de populations, les gagnent petits, les petits commerçants, ils perdent leurs économies suite aux conséquences néfastes liées à la baisse du taux du dollar, contrairement à la baisse des articles sur le marché. Et je parlais des réformes qui souffrent. Moi, je ne comprends pas vraiment comment nos députés nationaux, ils croisent les bras sur l'achèvement du processus de la réforme foncière dans ce pays. C'est aussi une grande urgence. Si au moins, avant la fin de cette mandature, nous pouvons voir le nouveau président booster la relance de l'étude du projet de la réforme ou la révision de la loi foncière et l'amener jusqu'à sa fin. Comme ça, on a au moins une loi foncière avec des politiques foncières qui riment avec la récente loi publiée par le chef de l'État sur l'aménagement du territoire. Vous voyez que ça, ce sont des entre autres questions urgentes sur lesquelles nous attendons le député. Nous pensons que Boli sera élu, en tout cas même la candidate de l'opposition, il ne fait nul doute qu'ils seront unanimement élus. Mais le plus important que nous attendons dans tout ça, c'est que les députés et l'exécutif comprennent que leur premier patron s'appelle la population qui est le souverain primaire. Et que dans toutes les réflexions, ils devraient mettre le souverain primaire au premier plan au lieu de mettre l'application des injonctions de leurs autorités morales au-dessus du souverain primaire qui est le détenteur du pouvoir qu'ils exercent à notre nom.
Merci de gracias Bouma. Frédéric Amani, vous avez 40 secondes pour conclure.
En conclusion, les députés émanent, c'est vrai, des familles politiques. Les députés émanent des familles politiques, mais avant toute chose, ils sont l'émanation du peuple. Donc, tout en défendant les intérêts de leurs regroupements et partis politiques, ils doivent avant tout défendre l'intérêt général, et c'est là pour la population congolaise. Dédé, nous pensons qu'aujourd'hui, les députés et le bureau qui sera mis en place par le vote de l'honorable Boji et Mme Clotude vont travailler pour aider le chef de l'État à contrôler rigoureusement les actions du gouvernement, interpeller les ministres qui ne font pas le travail, et c'est là pour aider à ce que le développement soit au rendez-vous. Le Parlement, c'est une grande institution qui a un rôle majeur à jouer pour la stabilité au travers des lois qui doivent être mises en place pour aider le pays à faire face à la guerre, mais aussi est une institution pour le développement dans les contrôles rigoureux de l'action du gouvernement pour le bien du peuple congolais.
Merci.
Et nous pensons que cela sera rendre service à la nation.
Merci,
nous souhaitons
Frédéric.
Bonne chance à l'honorable Boji et à Madame Clotilde.
Merci beaucoup. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Restez branchés sur Radio Capi.